C'est la suite de La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Kafka à l'occasion de la sortie en Pléiade d'une nouvelle traduction de ses œuvres complètes. Nous sommes pour ce faire avec celui qui est le maître d'œuvre de ces deux volumes, Jean-Pierre Lefèvre.
Lire Kafka, ça ne pose pas de problème?
À la lecture, aucun. Mais c'est insondable. C'est complètement vertigineux. Mais on ne peut en dire, et j'ai eu le tort d'écrire ce livre au fond, le comble de la lecture de Kafka, c'est Kafka lui-même. Le commentaire ultime finirait par devenir le texte de Kafka. Ce serait le commentaire idéal. C'est à la fois nécessaire d'écrire sur Kafka, il faut absolument écrire sur Kafka. Et on écrira sur Kafka tant qu'il y aura des livres. Personne n'en aura jamais fini. Il n'y a pas d'interprétation fausse, mais elles sont toutes partiellement justes. Elles sont toutes possibles, mais elles n'épuisent aucune des possibilités illimitées. C'est ça l'étrange. Comment est-ce que ces tout petits textes sont à ce point gigantesques ?
Permet cette exégèse qui paraît sans fin, selon Georges Arthur Goldschmidt, qu'on vient d'entendre ici en archive, c'est évidemment la profondeur de ces textes. Et cette profondeur, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle ne vient pas précisément de la très grande culture de Kafka, du fait que lui-même étant imprégné de tant de lectures, finalement, on peut, depuis divers pensées, analyser Kafka et en tirer des choses très très différentes?
Oui, il y a effectivement une espèce de matière noire là qui retient tout, qui tient tout, et on ne sait pas exactement quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre considérable de recherches qui se sont données pour mission d'exhiber, de déterrer tel ou tel événement ou lecture ou œuvre qui aurait retenu son attention et qui un jour ou l'autre serait ressorti dans son œuvre métamorphosée. Mais je pense justement que, enfin, il faut se méfier des métaphores cosmologiques, mais je pense qu'il y a l'univers est plat. C'est-à-dire, je pense que il y a la profondeur, mais il y a aussi la superficie en mouvement. Mm-hmm. Hein, c'est étalé, c'est à plat justement. Il y a tout, il n'y a pas trop à fouiller, mais il y a à tenir compte de la totalité. Il y a des petits textes, je pense au pont par exemple, le pont, ou bien le silence des sirènes. Ou...
Vous pensez qu'on les oublie un peu trop ces textes quand on analyse Kafka et qu'on
non.
pense tout de suite au procès ou au château, à la métamorphose, et puis qu'en fait il faut aller justement explorer tout ce grand territoire et regarder aussi à plat et pas simplement en profondeur?
Oui, c'est un peu justement la vertu de l'éditeur, donc de Max Brod, qui a bien senti qu'il fallait mettre tout ça dans la grande circulation d'objets littéraires autour de son œuvre connue et identifiée, même autour des romans. Là-dedans, il y a vraiment de tout, des choses qui commencent, qui ne se terminent pas, mais ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire que ce qui est donné au lecteur, c'est une espèce de miracle, parce que il aurait peut-être été plus loin, mais justement, il lui laisse le choix d'aller plus loin à sa manière, comme il le veut. Donc, c'est un univers qui, bon, ça va de pair avec la transparence de l'écriture qui est étalée. Donc, et toutes les tentatives de lecture en profondeur, mmh. ou en profondeur vers le haut.
Profondeur, ça veut dire psychanalyse, profondeur vers le haut, ça veut dire religion mystique, c'est ça?
Oui, mais quelquefois ça s'inverse. Quelquefois ça s'inverse. Effectivement, il y a des lectures, c'est bien connu, existentialistes, des lectures chrétiennes avec tel ou tel philosophe proche du christianisme, ou des lectures proprement juives qui sollicitent évidemment soit la culture de la halakha, c'est-à-dire de la tradition, soit la culture hassidique avec son inventivité prodigieuse, et mais qui est déjà un peu sortie d'ailleurs d'une certaine manière de la religion, enfin qui mêle les deux.
Et elle dit quoi justement cette interprétation par la religion juive?
Eh bien, elle met en évidence l'incidence, le poids, l'efficience de toutes ces histoires, finalement, de ce qu'une religion comme recueil d'histoires peut avoir de productif à terme sur les productions d'un artiste.
D'autant qu'il avait appris l'hébreu à la fin de sa vie.
Il a appris l'hébreu,
commencé à l'apprendre
avec beaucoup d'assiduité. On a ses cahiers vers la fin de sa vie, il était capable de lire un livre en hébreu et sans doute aussi en yiddish, ce qui est pas la même chose, enfin, sauf pour l'écriture. Et donc, il a été de plus en plus intéressé. Et bien, évidemment, ça a favorisé les analyses de son œuvre qui mettent cela à l'horizon, intéressé par la religiosité. Caractéristique de l'univers qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire l'univers juif de Prague.
Est-ce qu'on peut faire une lecture par l'antisémitisme? Parce que quand il est au collège ou au lycée, peut-être plutôt au lycée, il y a cette affaire Ilsner,
oui.
Qui est l'histoire du meurtre d'une jeune fille. Ça se passe en Bohême et le procès qui s'ensuit accuse à tort et même condamne, si je m'abuse, un cordonnier juif, mais qui est innocent. Est-ce que vous pensez que ça peut se retrouver à un moment donné dans les thématiques, dans les œuvres?
Oui, eh bien, bien sûr. Toute l'œuvre de Kafka est subsumée sous cette question-là. C'est-à-dire la perception floue ou au contraire articulée, argumentée, historique, etc., d'un antisémitisme récurrent de la part des uns et des autres, que ce soit les Allemands non-juifs de Prague, que ce soit le système, enfin les Allemands, ce sont des Autrichiens souvent, l'antisémitisme européen, même l'antisémitisme de américain du début du siècle.
La peinture très noire des États-Unis,
voilà,
qui fait aussi.
Voilà, les textes de Ford. Hein. Et puis tout ce qui revient dans la chambre d'écho pragoise de ce qui se passe à l'est, des pogroms, etc. Et cette histoire qui en Bohème même, disons, brûle et anime la tension, et ce cordonnier juif accusé à tort a été sauvé par le futur président de la République tchèque, Masaryk, qui a obtenu qu'on ne le condamne pas à mort, et ensuite il a été gracié. Enfin, c'est une histoire qui a duré très très longtemps.
Un peu une affaire Dreyfus Bohème, quoi.
Ah oui, sauf que c'était un pauvre petit cordonnier juif et pas un militaire gradé de l'armée. Voilà, et c'est les trois romans, mais pas seulement les trois romans, mais surtout les trois romans, sont structurés par une idée force qui est celle d'affronter le rejet, le refus d'intégrer, de considérer comme égal autrui en raison de son origine, etc. Donc, et ça prend des formes très subtiles parce que dans le procès, le personnage principal est réputé fils d'une mère bigote, enfin catholique, etc. Mais en réalité, quand on examine bien les choses, on se rend compte que son statut dans son entreprise, son statut de fondé de pouvoir, est un statut un peu exceptionnel et qu'il suscite soit un besoin de protection de la part de la direction, soit des jalousies dans l'établissement, soit etc. Kafka traite en permanence la question. Cette question-là, il en traite d'autres, bien sûr, mais cette question-là presque en priorité, mais dans des fables où l'on ne reconnaît pas, comme c'est le cas chez Max Brod, par exemple, où l'on ne reconnaît pas
le sujet réel.
Les gens par une identité juive qui serait comme ça quasi officielle, quoi.
Oui, il faut dire que le procès, c'est vrai que c'est accusé sans raison, un petit peu comme ce cordonnier qui a été accusé sans raison.
Exactement. Un matin, il a suffi d'une calomnie. Hein, il a suffi d'une calomnie pour qu'on l'arrête. Rien que l'articulation de ces deux notions est déjà lourde de toute l'histoire.
Autre exégèse que peut-être on fait moins, l'exégèse politique. Qu'est-ce qu'on peut voir de politique, d'engagement politique, de prise de position politique dans des textes qui ont l'air complètement hors du temps, les textes de Kafka?
Oui, mais je pense que le pari de Kafka, c'est de faire de la politique avec des textes qui ont l'air de ne pas l'être. Et donc de durer. Pour être efficient politiquement, il faut vivre longtemps. Il faut vivre longtemps aux manettes de la culture, etc. Et bon, et donc il y a tout un aspect qui a été traité objectivement. On a identifié les objets de ses sympathies politiques d'adolescent. Il a été socialiste, anticlérical.
Anarchiste.
Anarchiste. Il a été à des réunions. Alors, on a essayé de voir si ça allait plus loin que ça, parce que qui dit anarchiste dit société secrète, etc., etc. Bon. Et puis, il est évident que la politique à Prague, puisqu'il a vécu à Prague, elle était déterminée par la situation tout à fait extraordinaire, hein, de la situation démographique, culturelle, ça surdéterminait la vie politique, et donc les divisions politiques ordinaires qu'on peut observer en Angleterre, en France, en Allemagne à la même époque sont complètement tordues, vrillées par cette histoire pragoise, hein, c'est donc pas forcément identifiable. Et l'un des aspects de cette hypothèse politique chez Kafka, c'est bien sûr son rapport au sionisme, qui au début est contradictoire, c'est-à-dire que il est en contradiction avec ses amis sionistes de Prague, car il reconnaît chez eux, dans leur sionisme, trop de traits propres à la culture germanique, justement. Et ensuite, les choses évoluent, mais sur un mode plus personnel, supporté par le désir de d'émigrer. Mais je voudrais rendre un hommage ici à une personne qui est disparue récemment, ce qui était Pascal Casanova. Il a écrit un petit livre, Kafka en colère, qui justement examine la question politique et qui propose une espèce de Kafka plus bundiste que sioniste, hein, plus politique que religieux, etc. Et qui est un livre extrêmement, vraiment attachant et très éclairant le plus souvent.
Pascal Casanova, qui a été productrice pendant des années ici à France Culture, qui s'occupait de littérature. Ce qu'on entend dans ce que vous venez de dire finalement, c'est que cet écrivain qui écrivait sur le rien, qui écrivait en dehors de tout temps, en fait, ne peut pas être un écrivain né ailleurs que à Prague, dans un lieu et à une époque particulière. C'est cela finalement derrière une apparence de grande généralité finalement de ces textes, Jean-Pierre Lefebvre.
Oui, effectivement, et justement, disons cette espèce d'abîme pragois qu'il y a sous cette surface. Fait système aussi avec ce qui est un chemin de retour vers l'universel, c'est-à-dire justement la dimension analytique qui est chez lui omniprésente.